Bonsoir. Donc, bonsoir à tous. Comme vous le savez sans doute, évidemment, Lutte ouvrière sera présente aux élections régionales des 6 et 13 décembre. La fusion des deux Normandies, la Haute et la Basse, forme aujourd'hui la Normandie, regroupant 5 départements, l'Orne, la Manche, le Calvados, l'Eure et la Seine-Maritime, d'où nos 5 listes départementales. Bah écoutez, je vais vous présenter la tribune. À ma droite, Valérie Foissé, aide-soignante au CHU de Rouen. Elle est tête de liste départementale pour la Seine-Maritime. Et à ma gauche, Pascal Lemanac, ouvrier à Renault-Cléon. Tête de liste de la région Normandie. Il conduira la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Et moi, je vais me présenter aussi. Je suis Christelle Thor. Je travaille également au CHU de Rouen. Je suis technicienne de laboratoire et je suis candidate sur la liste de Seine-Maritime. Bien maintenant, je donne la parole à Valérie Foissé.
Alors bonjour à tous, bienvenue à notre fête. Donc comme l'a dit Christelle, je suis aide-soignante à l'hôpital de Rouen. Il y a une multitude d'exemples qui montrent à quel point le capitalisme est nuisible pour la société, même dans le monde de la santé où je travaille. À l'hôpital, la direction a pour mission d'appliquer les directives ministérielles, comme dans tous les services publics, à faire des économies. La dernière en date de ces directives est la loi Touraine, qui doit permettre de faire 3,4 milliards d'économies sur la branche maladie de la Sécu, dont 1 milliard amputé sur le budget des hôpitaux d'ici à 2017. Faire des économies à l'hôpital, ce n'est pas nouveau. Cela fait des années que les plans d'économie ou de retour à l'équilibre s'additionnent et aggravent la situation d'année en année. Ces derniers temps, la direction s'est mise à convoquer régulièrement les chefs de service et les cadres pour faire pression sur eux. Il faut que leur service soit rentable à tout prix. Du coup, on voit certains chefs de service, qui sont normalement des médecins d'abord, se mettre à réfléchir comme des chefs d'entreprise. Ils cherchent comment faire pour que le service devienne attractif, pour qu'il soit plein en permanence, pour que les actes effectués soient les plus rentables possibles. À la maternité où je travaille, ça en devient ridicule. Le chef de service multiplie les inventions tape à l'œil pour attirer les futures mamans, liron, baignoire, jolie lumière, alors qu'en même temps, on occupe des lits à la maternité avec des patientes dont le problème n'a rien à voir avec leur grossesse, par exemple une appendicite ou un accident cérébral, qui ne peuvent pas être soignées correctement dans une maternité, tout simplement parce que ce n'est pas notre spécialité. La direction a même inventé un nouveau poste, Monsieur Efficience, c'est comme cela qu'elle l'appelle, hein. Son métier, c'est la chasse aux économies sur le dos du personnel. Il accélère les suppressions de postes et la mutualisation du personnel entre les différents établissements qui composent l'hôpital. Des collègues peuvent maintenant se retrouver, dans la même semaine, à travailler 2 jours à Petit-Quevilly et le reste du temps à Rouen. La généralisation de la chirurgie ambulatoire entraîne elle aussi des problèmes croissants. Selon ce système, un patient entre à l'hôpital le matin, est opéré et sort dans la journée. Cela peut évidemment être plus confortable pour certains patients, dans le cas où tout se passe bien et où ils se trouvent bien chez eux. Mais c'est surtout bien plus rentable pour l'hôpital. Ce genre de service se développe partout, se modernise et cherche à être attractif pour faire concurrence aux cliniques privées qui pratiquent la chirurgie ambulatoire depuis longtemps, du fait de sa rentabilité justement. Mais les autres services, ceux qui soignent des pathologies plus lourdes, chroniques ou qui soignent les personnes âgées, en un mot, les services qui ne peuvent pas être rentabilisés aussi facilement n'intéressent pas la direction. Elle les laisse se dégrader. On en arrive à des situations impensables. En particulier aux urgences, on a vu plusieurs fois cette année des patients attendre plus de 3 jours sur un brancard dans les couloirs des urgences parce qu'il n'y avait pas de lit pour les hospitaliser. Le maître mot à l'hôpital, ça devient « il faut que ça tourne ». Hop, le patient arrive, hop, il repart, hop, il est remplacé par un autre, hop, hop, on se dépêche, voilà. Autrement dit, vous n'avez pas intérêt à ce qu'il y ait des complications. La pression est telle que beaucoup quittent l'hôpital, les médecins, mais aussi le reste du personnel. La direction en vient à réduire le nombre de patients que l'on peut accueillir au même moment au sein des services, c'est-à-dire à fermer des lits en fin de compte, et même des services entiers. Leur politique de rentabilité non seulement dégrade la qualité des soins et nos conditions de travail, mais en plus, cela revient à organiser la pénurie des soins. Combien de temps pour voir un spécialiste ? Combien ont entendu cette phrase ? Oui, je peux vous opérer, mais à l'hôpital, il n'y a pas de place avant des mois. Mais qu'est-ce que c'est que cette société où on présente comme du progrès la limitation de l'accès aux soins ? Et il se passe la même chose dans tous les services publics, dans l'éducation ou encore les transports, par exemple. Prenez les transports. Dans la région, c'est un énorme problème pour beaucoup de salariés. Depuis des décennies, dans un but de rentabilité, la SNCF ferme des lignes, dites secondaires, en donnant la priorité aux trains à grande vitesse, alors que parallèlement, le prix des billets ne cesse d'augmenter. Sur les lignes Le Havre-Paris ou Cherbourg-Caen-Paris, les rames bondées, les retards et les suppressions de trains sont quasi quotidiens. Cette recherche de la rentabilité s'est également traduite par une baisse considérable du nombre de cheminots, puisqu'en 10 ans, la SNCF a supprimé 30 000 emplois. Sur le site de Catmar, qui répare le matériel roulant, un tiers du personnel a disparu en moins de 10 ans, alors qu'il y a toujours autant de travail et que la direction a régulièrement recours à des intérimaires d'ailleurs. Résultat, les infrastructures sont vétustes et les trains moins entretenus, ce qui entraîne tous ces problèmes rencontrés par les usagers. Aujourd'hui, la SNCF prétend que les choses vont s'améliorer avec la nouvelle ligne Paris-Normandie. Mais ce projet n'est même pas finalisé sur le papier. Les usagers n'en ont donc pas fini avec la galère, d'autant que rien ne dit que cette ligne répondra réellement aux attentes et aux besoins de la population. Le projet ne prévoit même pas de desservir la gare actuelle d'Évreux. Le gouvernement présente aussi la mise en circulation d'autocars entre les grandes villes comme un progrès. Le ministre de l'économie, Macron, a déclaré que, grâce à cette mesure, les pauvres pourront voyager. Comme ça, c'est clair, ceux qui ont les moyens pourront se payer le train, tandis que les autres devront se contenter du car. Et tant pis pour la sécurité, tant pis pour la pollution, tant pis pour le temps perdu. 4 heures en car entre Le Havre et Paris quand même. Par contre, les sociétés de transport routier qui affrèteront les cars, comme Euroline, Ouibus, la filiale de la SNCF créée pour la circonstance, ou d'autres, en tireront tout de même des profits. Je pourrais multiplier les exemples de reculs, de scandales, de gâchis dans tous les services utiles à la population. En réalité, c'est toute la société qui recule. Parce que l'économie capitaliste ne sert que les intérêts d'une toute petite minorité qui possède les richesses et les moyens de les produire et qui dicte sa loi. Les gouvernements, de gauche comme de droite, quelles que soient les promesses qu'ils ont faites, se succèdent, mais ils servent toujours le grand patronat, les actionnaires et la bourgeoisie. Toutes ces économies qu'ils réalisent à nos dépens, ils le reversent sous forme d'innombrables cadeaux à cette classe capitaliste qui, pourtant, ne crée aucun emploi, au contraire, et qui détruit les moyens d'existence de ceux qui ont encore un travail, comme des retraités. Pour tous les travailleurs, la situation empire, en particulier sous le poids du chômage de masse, en Normandie. Le chômage s'est accru de plus de 3% en seulement un an. Bien des grands groupes ont licencié ou supprimé des emplois. Dans la région, à Octeville, près du Havre, ce sont les travailleurs de Sidel qui se battent contre la suppression de plus de 200 postes. Alors que Sidel est adossé au groupe Tetra Laval, qui est un très grand groupe très profitable. Chez Areva, 2700 emplois doivent être supprimés d'ici 2017. Sur l'ensemble du pays, 350 sur le site de La Hague. Et quand les grands groupes ne licencient pas, ils utilisent la précarité pour assurer les profits. Avec 1,4 milliard d'euros de bénéfices réalisés au premier semestre 2015, Renault se porte très bien, sur le dos de ceux qui l'exploitent. Ainsi, à Cléon, sur 4 400 travailleurs, comme l'a dit Nathalie, 1 200 sont en intérim. À Sandouville, sur 3 600, on compte 1 400 intérimaires qui assurent 90% des postes sur chaîne. La direction n'embauche plus et utilise la précarité des intérimaires pour leur imposer des horaires de travail aberrants en fonction de la production. Donc, le lundi, elle fait faire des heures supplémentaires, mais le mercredi, à cause d'une panne ou d'un manque de pièces, la journée n'est pas travaillée. Et puis le samedi, elle travaille en heures supplémentaires, etc., etc. Si ça, ce n'est pas de l'exploitation, ni la réunification de la Normandie, ni les élections régionales ne peuvent rien à cette situation. Que la droite soit majoritaire ou que le PS conserve ses postes, les mêmes politiques continueront. Baisse de charges et subventions pour les entreprises, restrictions et économies dans les services publics. Les futurs conseils régionaux continueront de verser des centaines de millions d'euros d'aide aux entreprises, tandis que leurs dirigeants réduiront les effectifs de fonctionnaires, prétextant la présence de doublons. Hervé Morin a clairement annoncé la couleur, mais si d'autres sont élus à sa place, on peut parier qu'ils feront de même. C'est d'actualité. Vous avez peut-être entendu hier un Éric Ciotti, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, se féliciter de la baisse du nombre des salariés du Conseil général et annoncer comme conséquence logique de cette baisse la diminution du nombre de jours de congés et de RTT pour ceux qui restent. Je n'ai pris que quelques exemples, mais ils illustrent bien à quel point le capitalisme est nuisible pour la société, alors que l'on n'a jamais produit autant de richesses. Il n'y a jamais eu autant de mal logés, de mal soignés, de pauvres. Et en plus, les patrons, les gouvernements, cherchent à nous faire entrer dans cette logique de concurrence et de rentabilité. Ils cherchent à nous persuader que c'est à nous de faire des efforts, que l'on est trop payé, trop protégé, pas assez performant. Alors nous n'avons peut-être pas encore la force d'inverser ce rapport de force et d'arrêter la dégradation de nos conditions de vie, mais nous devons affirmer clairement les intérêts du monde du travail. Il n'y a pas de compromis possible entre ceux qui aujourd'hui dirigent la société en la menant à la catastrophe et les travailleurs. C'est à affirmer cela que sert le bulletin de vote Lutte ouvrière. Et pour développer les idées que nous allons défendre dans cette campagne électorale, je passe la parole à Pascal Lemanach.